enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.
Vous allez bien? Dis à ton voisin, je te félicite d'être là ce soir. Tu as fait le bon choix. Dis-le lui avec conviction. J'aimerais ce soir, rebondir sur ce que Samuel vient de dire, que dehors, il y a des gens qui nous attendent. Je voudrais vous en convaincre par un extrait d'un morceau de musique qui a été le tube de l'été et qui parle d'un homme qui est en recherche. On l'écoute une minute, d'accord? On l'écoute avec les oreilles ouvertes, je vous rassure, ce n'est pas le monde qui rentre dans l'église, c'est pour qu'on prenne conscience de ce qui se passe en dehors de nos murs, d'accord? On y va, Eric, quand tu veux.
Tant de plaisirs faciles, d'envies puériles qui nous retiennent vers le bas. Prêt à n'importe quel deal, quand il faut mourir, on se met à tout croire parce qu'on sait jamais. On est capable du pire, d'aimer à culpa, de toutes les mauvaises fois. Qui pourrait encore dire qui est Saint Thomas quand son heure arrivera? Parce qu'on sait jamais.
Parce qu'on ne sait jamais, on regarde vers le haut, et s'il y a un après, au moins sauver sa peau. Voilà un chanteur qui a fait le tube de l'été, et qui est un homme pas converti, en tout cas comme nous le comprenons. Un homme qui exprime quelque part sa quête, sa soif de spiritualité. On peut ne pas être religieux, ou ne pas aimer la religion, et pourtant être spirituel, être en recherche. Et il a exprimé là aussi une quête de soif, une crainte face à ce qui pourrait vivre, à ce qui pourrait venir. Parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais, alors on regarde là-haut, et puis s'il y a un après, il vaut mieux assurer les arrières. J'aimerais ce soir prendre un thème qui est les plus basiques dans la vie chrétienne. Parmi nous, certains vont connaître les concepts que je vais traverser, que je vais avec vous un petit peu toucher de près et de loin. Pour d'autres, c'est tout neuf. Mais ce soir, je voudrais parler de cela. Sauver sa peau. Voyez-vous, la réponse à la suivante, c'est que Jésus nous parle justement de l'après. Et il sait de quoi nous sauver et comment nous sauver. Dans nos pays dits occidentaux, on se dit des pays chrétiens. Ailleurs, c'est des pays musulmans. On est aussi chrétien ici qu'on est musulman là-bas. De père en fils. On l'a hérité par tradition. On ne l'a pas fait exprès. Est-ce que parce qu'on est chrétien qu'on va forcément au ciel? C'est une des questions. Est-ce que parce qu'on est né de famille chrétienne, on va forcément monter au ciel? Est-ce que parce qu'on a une tradition chrétienne, même évangélique, est-ce que forcément on va aller au ciel? Pour beaucoup, vous le savez, c'est non. Si vous le dites comme ce soir, je vous invite à bien écouter. Mon but ce soir, c'est de nous aider à nous rappeler les éléments de base de la bonne nouvelle. Des éléments de base qui nous permettent d'avoir une espérance et une certitude quant à ce qui vient après. Parce que ce qui vient après est fantastique. Mais ça commence ici-bas. Lorsqu'on lit la Bible, moi j'aime la lire aussi par la fin. Vous savez pourquoi? Parce que tous les bons livres, on les commence par la fin. Et à la fin, je vous dis, à la fin, il y a de super bonnes choses qui nous attendent. Il est parlé d'un temps hors du temps et de l'espace, d'un état permanent et définitif. Pour les uns, ce sera le ciel, pour les autres, l'enfer. Mais au ciel, mes amis, ce sera fantastique. Plus besoin de lunettes, plus d'arthrose, plus de maladies, plus de souffrances, ni de larmes, ni de deuil, comme aujourd'hui avec la famille Loret. Plus de deuil, mieux que ça encore, mieux que ça. Ce ne sera pas Samuel, mais Dieu le Père qui viendra avec un mouchoir, non pas à la menthe, mais à la dentelle céleste, viendra essuyer chaque larme de nos yeux. Hey, ça vaut la peine, non? Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a après. Mais il y a un après. Et ce soir, je voudrais vous montrer comment sauver sa peau. Tel est mon message. Comment sauver sa peau. Un soir est venu un homme près de Jésus, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs, un pharisien. Les pharisiens étaient une société un petit peu particulière. C'était des gens qui étaient, avaient fait des études, souvent des Juifs issus d'une classe moyenne, et qui avaient étudié les textes de loi, et qui avaient, je dirais, une pratique zélée de leur religion. Ils avaient poussé un peu à l'extrême leur façon de vivre la foi. Et puis, ils avaient poussé tellement à l'extrême que finalement, ça devenait plus des rites que l'expression d'une véritable démarche intérieure. Mais cet homme-là était reconnu en Israël, un homme intelligent, un homme assoiffé, un homme cultivé aussi, un érudit de la Bible. Et un soir, il est venu à Jésus. Et il dit à Jésus, « Maître, nous savons que tu viens de Dieu. Nul ne peut faire ce que tu fais s'il n'est pas de Dieu. » Et Jésus, comme s'il voyait derrière la question la vraie question, lui répond les choses suivantes. Lisons ensemble dans Jean 3. Jean 3, les versets 3 et les suivantes. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui dit, attends, il faut que je naisse de nouveau. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors Jésus lui dit, vraiment, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ou s'il ne naît d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, remarquez le grand E, est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et je relève le « il faut ». Une des rares fois où Jésus dit « il faut ». Et il rajoute « le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Entendu, le Saint-Esprit. Et Nicodème me dit, mais comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, écoutez ce qu'il lui dit, il dit, tu es le docteur Israël, et tu ne sais pas ces choses-là? J'aimerais ce soir qu'on puisse un instant prendre ce texte dans le contexte et en même temps nous l'appliquer à nous aujourd'hui. Quand Jésus est venu, il parlait d'un royaume à venir. Pas d'un royaume d'ici-bas, terre à terre, mais d'un royaume qui avait une autre dimension spirituel, mais dont les règles de fonctionnement s'appliquaient dès à présent. Le royaume de Dieu est à portée de main, dit Jésus, pensant à cela, à la puissance de Dieu qui était à disposition pour vivre la puissance miraculeuse, etc. Mais en même temps, il parlait d'un royaume dans lequel il fallait entrer. Et Nicodème attendait ce royaume. Et je crois que la création entière soupire après ce royaume. Ce chant que je vous ai fait écouter, au moins un extrait, parle de ce quelque chose suppose, qu'il suppute, qu'il pense que réellement il y a. Et s'il y a, alors, il faut mieux être prêt. Et Jésus fera une déclaration assez bouleversante. Il dit à Nicodème, mais Nicodème, si tu veux voir ce royaume, si tu veux y pénétrer, si tu veux rentrer dedans, il faut que tu naisses de nouveau. Un homme intelligent et sensé, il pose une question, je dirais très logique. Mais comment un homme de mon âge peut-il vivre une renaissance? Faut-il que je remonte dans le sein de ma mère? Il pousse la logique à fond, un peu à l'ironie, mais attends, est-ce qu'il faut que je remonte dans le sein de ma mère? Hein? Et Jésus dit non. Remarquez bien, il n'a pas envoyé Nicodème balader. Avec beaucoup de respect, il lui répond. Et il lui dit la chose suivante. En vérité, donc il insiste sur le côté absolu, la vérité. Le fait est que si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Ce qui est cher, ce qui est de l'esprit, est esprit. Pour voir ce monde ici-bas, chacun de nous est passé par une expérience unique appelée la naissance. Chacun de nous. Et on peut remarquer dans nos passeports ou livres de famille, on peut retrouver exactement le lieu, le jour et même l'heure de notre naissance. Chacun, pour appréhender ce monde avec ses cinq sens, a dû passer par l'élément naissance. Un moment assez violent, j'avoue. Un moment difficile, un moment inéluctable, incontournable, faute de quoi vous mourriez dans le sein de votre mère. Et pour voir le royaume de Dieu, Jésus dit, il en va de même. Sauf que la naissance n'est pas d'ordre charnel et physiologique, mais d'ordre spirituel. Et elle a besoin, elle aussi, d'être vécue, faute de quoi on aura fait de vous, malheureusement, un homme ou une femme religieuse, évangélique peut-être, mais religieuse quand même, toujours aussi perdu que l'était Nicodème, toujours aussi loin de Dieu, sans espérance, perdu à l'endroit dans les ténèbres, malgré sa belle façade, malgré mon vernis religieux que moi j'avais, quand je suis arrivé au Seigneur. Voyez-vous, je suis devenu français par naissance. D'autres deviennent allemands ou suisses. On devient aussi citoyen du ciel par une naissance spirituelle. Dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit « À tous ceux qui ont reçu la lumière du monde, en parlant du Christ, à tous ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui ont cru en son nom, cette lumière du monde leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et chaque mot a son poids, le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, on n'est pas enfants de Dieu de père en fils. On est tous les enfants du Père. C'est faux. C'est faux. Tout le monde n'a pas légitimement le droit de dire notre Père, mon Père qui est aux cieux. Seuls ceux qui ont réellement reçu le Saint-Esprit en eux, qui sont nés par une nouvelle naissance, sont réellement capables de dire « Oui, Dieu le Père est mon Père. » Et Paul pousse raisonnement plus loin, il dit encore la chose suivante, il dit dans Romains chapitre 8, il dit « Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ en vous, vous ne lui appartenez pas. Vous n'êtes pas chrétien. Seuls ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit dans leur vie sont enfants de Dieu. » À ce moment-là, la vie chrétienne devient palpitante. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où vous recevez le Saint-Esprit de Dieu en vous, où vous recevez la vie nouvelle de Jésus en vous, vous recevez des capacités nouvelles. Je me souviens de ce moment où je l'ai reçu. Ça n'avait pas été fracassant, je vous l'avoue. Ce n'était pas le flash intergalactique qui m'a foudroyé sur place. Et boum, voilà, on est de nouveau. Non, c'était plutôt très très discret. J'étais même assez déçu. Mais j'ai remarqué au fil des 15 jours qui ont suivi que tout à coup, au fond de moi, montaient des nouveaux désirs. Des désirs où je devais me forcer à les avoir avant de connaître Jésus comme cela. Par exemple, le désir de prier. avant, ce désir était plutôt une mesure punitive. Si vous voulez me punir, envoyez-moi prier. Alors je me punissais en priant. Enfin, je priais en me punissant. Enfin, c'est comme me voler. Je me disais que si je priais, alors j'allais au moins avoir les faveurs de Dieu. Et je priais, comme des millions de personnes en Europe ou ailleurs. Et on priait pour s'attirer les faveurs de Dieu. Alors, des fois, ça marchait. Oh, étonnamment, ça marchait. Mais pas toujours non plus. Et malheureusement, c'est toujours encore une punition. Et un moment difficile. Et tout à coup, là, avec la vie de Jésus en moi, tout à coup, cette prière devenait intéressante. Il y avait une envie, il y avait un désir. Un second désir, c'était de lire la parole de Dieu, la Bible. Moi, j'avais du mal avec la Bible. Non pas que je n'aime pas la Bible, j'aimais bien les belles histoires de Genèse. C'était logique, c'était ordonné, c'était... Mais quand on allait plus loin, c'était, franchement, les épîtres de Paul. La barbe, franchement, la barbe. L'épître aux Romains, oi, 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 oi. Romains 1 à 10, c'était... Ça plane pour moi. Et je me disais souvent, mais qu'est-ce qu'on peut trouver intéressant là-dedans? C'est fait pour des théologiens de haut vol, mais pour moi, petite fourmi chrétienne, franchement. Hein. Et tout à coup, les textes prenaient un relief, une profondeur, avaient une saveur. Tout à coup, ces textes qui m'avaient l'air obscurs et difficiles à comprendre se révélaient avoir une saveur particulière et nourrissaient mon cœur. J'y perdais des fois à l'époque des heures, j'avais du temps à l'époque. Je perdais des heures à lire, à relire les passages et à m'en nourrir, à m'en gaver presque. Et puis il y avait le désir d'aller à l'église. Alors ça, j'avais décidé qu'à 18 ans, je n'irai plus à l'église. C'est terminé, c'était fini. Hein. Dieu, oui, l'église, non. Mais là, quand j'avais rencontré le Seigneur, quand la vie m'avait pénétré, j'avais ce désir de... Ah, ce n'est que mardi soir... Mercredi matin, ça me paraissait long jusqu'à dimanche. Une éternité. Chaque semaine, une éternité. Mais le dimanche, mais je courais à l'église. C'était intéressant. C'était fantastique. On y vivait des choses. On chantait Dieu. Mais c'était le ciel sur terre. Ça l'est toujours encore d'ailleurs. Et de plus en plus. Et bientôt, nous serons ensemble au ciel. Et nous chanterons quelques siècles en langue. Et alléluia. Et puis en français, puis en allemand, puis je ne sais pas trop comment, enfin, on verra bien. Et puis il y avait autre chose qui est arrivée. C'est que moi, qui avais ce sentiment profond que la vie chrétienne était quelque chose d'aride. Tu dois, tu ne dois pas, tu devrais pas, tu. La liste était longue. Et des fois, j'essayais vraiment de le faire. Mais là, non seulement il y avait l'envie de le faire, mais aussi une capacité intérieure de faire. Je ne dis pas que je n'ai pas trébuché. Oui, j'ai trébuché des fois. Même des fois gravement. Je me suis même ramassé les genoux. Hein. Certains m'ont ramassé. J'avais des jambes cassées. Mais bon, c'est à nouveau guéri. Et puis on a appris à marcher. Mais finalement, une envie de marcher comme Dieu veut qu'on marche. C'était plus tu dois pas. C'était plutôt, Seigneur, j'ai envie de te plaire. Et parce que cette vie est en moi, j'ai envie de te plaire. Et je veux te plaire. Et parce que je veux te plaire, je n'ai pas envie de te déplaire. Voilà, c'est si simple que ça. Et du coup, la vie s'était modifiée. Parce qu'il y avait une vie nouvelle en moi. Remarquez, Jésus dit ça à un pharisien. Un pharisien où toute la façon de se tenir juste devant Dieu résidait dans le fait de faire des choses que la religion imposait. Et il pensait que plus ils en faisaient, plus ils allaient plaire à Dieu. Luther disait, je fais des bonnes œuvres, j'en fais des bonnes œuvres, mais combien dois-je en faire pour être juste devant toi? Et je nous pose la question, combien de bonnes œuvres allez-vous devoir faire pour plaire à Dieu? Vous n'en feriez jamais assez, tellement il en faudrait. Elle ne suffirait pas. La seule bonne œuvre que vous pourriez faire ce soir, et que je vous en ai fait tout à l'heure, c'est de croire en celui qui a tout fait à votre place. À celui qui a payé de sa vie innocente pour des coupables invétérés que nous sommes. À croire au Fils de Dieu qui a donné sa vie pour votre, pour vos péchés. Vous savez toujours. Alors comment naître de nouveau ? Voilà la question. Comment peut-on être de nouveau ? Comment puis-je un jour dire, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est en Claude, hein, je vous rassure, c'est Claude Gréder avec toutes ses qualités et ses défauts. Mais au fond de moi, il y a une vie qui palpite, qui bouge, qui se meut, qui me pousse à aller de l'avant. C'est le Christ qui vit en nous. Amen. Alors comment naître de nouveau ? Jésus dit, mais c'est comme le vent. On ne sait pas trop d'où il vient ni où il va, mais tu en sens les effets, n'est-ce pas ? Quand le vent souffle, ouh, ça décoiffe. Les feuilles, les arbres frémissent. On le sent passer. Maintenant, d'où il vient, d'où il va, comment il s'est formé là-bas, au sud-ouest, arrivé dans le nord-est, j'en sais rien. Mais quand il est là, on le sent. Et pourtant, il y a des éléments qui sont là, qui permettent de comprendre comment ça s'est passé, au moins tantiner. On ne saura pas tout expliquer exactement dans le détail près. Mais il n'empêche, tout commence par une ouverture de cœur. Chez Nicodème, je me rends compte qu'il y a une recherche. Cet homme était allé au bout de ses raisonnements, au bout de ses recherches théologiques, et finalement, il avait été comme un aveugle qui tâtonne, et qui dit, là, il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Nicodème cherchait. Christophe Mahé cherche, j'en suis sûr. Il le chante si bien, et il est à la recherche, et qui cherche trouve. Voyez-vous, pour que la vie vienne dans un corps d'une femme, il faut qu'il y ait intimité, il faut qu'il y ait ouverture, il faut qu'il y ait contact. Ce que Dieu veut chercher chez vous, ce n'est pas juste une apparence, un style de vie. C'est votre cœur qu'il cherche. Et une fois qu'il y a eu ce contact, cette recherche, et la vie du Christ est remplie de ce genre de rencontres avec des hommes et des femmes en recherche. D'ailleurs, moi, les évangélistes, j'appellerais ça rencontre au pluriel. Ceux qui cherchent vraiment, ceux qui cherchent qu'un intérêt, je veux une guérison, je veux un petit miracle, et puis ceux qui veulent juste l'utiliser pour en faire un roi temporel, ou ceux qui veulent se mettre dans la poche, comme certains pharisiens. Non, lui, il vient pour communiquer la vie. La vie, la vraie, celle qui nous donne une espérance éternelle. Et alors, il fait une chose très simple, il prêche. Jésus a prêché, à partir d'exemples très vivants. À l'époque, la société était particulièrement agricole, et il parlait de semences, il parlait de labour, il parlait d'oliviers, etc. D'images très, très terre à terre pour leur faire comprendre des vérités spirituelles. La Bible dit que la parole de Dieu, dans 1 Pierre 1:23, que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Et elle dit, nous sommes régénérés, nous avons été renouvelés, nous avons été transformés, nous avons été régénérés par la parole, par la semence de la parole de Dieu qui est incorruptible, permanente et vivante. Un jour ou l'autre, par un cantique, par un livre, par une prédication, quelque part au fond de nos cœurs, parmi ceux qui sont sauvés, a atterri dans nos cœurs avec douceur la semence incorruptible de la parole de Dieu, et elle a provoqué au fond de nous un travail. Et ce travail a conçu cette vie tranquillement, gentiment, tranquillement. Et puis, pour qu'elle puisse arriver à maturité, il a fallu deux, trois conditions. La première condition, c'est la repentance. Ce n'est pas un gros mot, je vous rassure. Ce n'est pas un mot difficile. Ça veut juste dire changer de façon de voir les choses. Changer sa façon de penser. Métanoïa en grec. Qu'est-ce que ça veut dire en clair ? En clair, ça veut dire simplement appeler le mal, mal, et le bien, bien. Appelons un mensonge, et une calomnie. Appelons un adultère, et pas une aventure. Vous voyez ce que je veux dire ? On appelle ça se repentir. Avoir un langage cohérent avec la conscience. Deuxième point, c'est se convertir. Une fois que j'ai fait ce travail de repentir, je me dis, mais c'est vrai, là, franchement, là, je mens. Je mens au client. Je lui vends un produit que je dis tout frais alors qu'il est à la limite de la péremption. Je mens. J'ai menti à mon mari ce soir en rentrant à la maison, prétendant que je n'avais pas dépensé l'argent du couple. Mais si, j'ai tout dépensé, j'ai acheté une belle robe, encore une fois de plus, quoi. Voyez-vous, on a comme ça des fois du mal à admettre la vérité. Des fois, je suis effrayé par les fumeurs. Vous savez pourquoi? Voilà des gens qui se voilent la face. Ils vont tous les matins acheter un paquet de cigarettes sur lequel il est marqué « Fumez-tu ?» Ils le savent. Ils le lisent. Ils savent lire en France. Mais ils l'achètent quand même et ils le consomment. Au lieu de dire « Oui, fumez-tu, donc j'arrête. » Mais non, on continue quand même. L'abus d'alcool est dangereux. Mais certains, ils le savent, ils le voient, ils le comprennent, mais malgré cela, continuent et s'enracinent dans le problème. Alors, je suis conscient aussi que certains parmi eux sont de ceux qui, effectivement, sont enchaînés par le problème. Et même s'ils savent lire et faire et décoder, ils savent plus comment faire marche arrière. Et là, il faut la puissance de Dieu qui délivre et qui donne la force à la volonté pour dire maintenant ça suffit. La conversion veut dire quoi? Changer de direction. Si fumais-tu, je fais un demi-tour, je me convertis. J'admets que le mal est appelé mal et que le bien est appelé bien, et je commence à marcher. Et pendant que je marche, je me rends compte que ça ne va pas, je n'ai pas la force d'y arriver, et je fais marche arrière, et je recule vers le tabac ou vers l'alcool ou vers d'autres choses nuisibles à notre vie. Et c'est là qu'il faut quelque chose de plus. Plus qu'une morale qui vous dise « Fumez-tu, l'alcool est dangereux. » C'est de la morale. Il nous faut la force qui vient là-dedans et qui nous donne une vie nouvelle et une capacité de dire « Oui, fumez-tu. » Et je me détourne. Et j'ai la force de me détourner et de rester détourné. Vous me suivez toujours ? À ce moment-là, il y a le moment où je m'ouvre au Seigneur et où je l'invite à venir dans mon cœur et où sa vie me percute. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Point 1, Jésus frappe à la porte. Et ce soir, pendant que je parle, la voix de Dieu est en train de frapper à votre porte, à la porte de votre cœur. Deuxièmement, il est dit, si quelqu'un m'entend, on peut se boucher les oreilles. Ce soir, je vous en supplie, débouchez-les. Pourquoi? Parce que Dieu est un gentleman, il vous respectera. Il n'est pas dit qu'il fracassera la porte avec un marteau pileur. Non, il frappe, il attend que vous ouvriez la porte. Et après, il dit autre chose, il est dit, et nous mangerons, et ils mangeront ensemble. Je n'ai jamais invité chez moi un ennemi à manger à ma table. Quand j'invite des gens chez moi, parce que j'ai plaisir à les recevoir, et que je suis content d'être avec eux, et on passera un bon moment ensemble. Et ce que Dieu veut faire avec vous, c'est établir une relation amicale du un à un. Et à un moment donné, et surtout qu'à un moment donné, il y a une vie intérieure qui se lève. On appelle ça la nouvelle naissance. C'est comme le vent, je ne sais pas trop tout à fait d'où il vient ni où il va, mais quand c'est arrivé, quand une personne a reçu la vie du Christ en lui et en elle, vous savez quoi? Vous le savez, vous le sentez, ça sent. Ça sent la vie. Ça sent la vie. Ça bouge la vie. Un homme de Dieu disait la chose suivante, saint Augustin, croire, c'est recevoir. Je reprends Jean 1, verset 12. Je voudrais faire la conclusion tout doucement. Jean 1, verset 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu. » Autrement dit, autrement, à tous ceux qui l'ont accueilli. Virgule. À ceux qui croient en son nom. Autrement dit, le mot croire est l'équivalent du mot accueillir. Croire en Jésus, c'est d'abord l'accueillir au fond de soi. Et vous avez affaire à quelqu'un qui vous respecte profondément et qui vous aime de manière incommensurable. À ces gens-là, la lumière du monde, le Seigneur leur donne le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu, ils deviennent enfants de Dieu, ils sont légitimement les fils et les filles de Dieu, leur nom est inscrit dans le livre de vie, ils sont citoyens du ciel, héritiers de Christ, ils ont l'espérance de la vie éternelle, ils sont en route vers le salut éternel. Amen. Êtes-vous sauvés? Vous devriez répondre comme une balle qui sort d'un canon de revolver. C'est un oui ou c'est non? Si c'est oui, retenez ce message, partagez-le à d'autres. Si c'est non, s'il vous plaît, restez avec moi. Dans ma tête, j'ai eu plein d'arguments. À cette question, je dis, mais je suis baptisé en tant qu'enfant. Ha 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 ha. J'aimerais vous dire, le fait d'avoir été baptisé ou d'avoir été présenté en tant qu'enfant ne fait pas de vous un chrétien. C'est faux. Il y a des millions de personnes qui sont en route vers les ténèbres éternelles et qui ont été baptisées ou présentées. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. D'autres disent, mais je mène une vie bien, une vie droite, je mène une vie moralement acceptable, éthiquement correcte. Monsieur, attendez. Le problème n'est pas votre morale ou votre façade, votre apparence. Le problème, c'est que le mal n'est pas apparent, il est au fond de vous, au fond de moi. La Bible dit que par nature, je suis pécheur. Si je me laisse aller, par nature, je vais aller faire le mal tout naturellement. Et pour que ma vie change, il faut que ma nature change. Il faut qu'une vie nouvelle rentre en moi pour que je devienne, que je mène une vie comme Dieu veut que je la mène. D'autres me disent, mes frères, mes messieurs, moi je prie, Dieu me répond. Dieu m'a touché. Je dis, très bien. Mes parents ont prié des dizaines de fois, et des dizaines de fois, avant les chrétiens, mes parents ont vu la réponse de Dieu. Allez, là, j'exagère un peu, pas des dizaines de fois, mais ils l'ont vu dans leur vie plusieurs fois répondre. On n'était pas sauvés. Il y a eu 10 malades, 10 lépreux sont venus à Jésus. Les 10 avaient le même problème, la lèpre. Les 10 ont fait une requête. Les 10 ont obtenu gain de cause. 10 guérisons d'un coup. Fantastique. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour adorer Jésus et le suivre. Dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu fait grâce à celui qui l'invoque d'un cœur sincère. Psaume 34 dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. C'est marqué. Lorsque le malheureux crie, même celui qui est impie, peut crier à Dieu et être déniré par Dieu, ça ne le sauve pas pour autant. Ça lui indique qu'il y a un Dieu qui l'écoute. Mais ce soir, où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Êtes-vous sauvé? Avez-vous reçu le Christ au fond de vous? Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de Dieu? L'Esprit Saint habite-t-il en vous? Est-ce que vous avez au fond de vous le témoignage de l'Esprit qui dit à votre esprit, tu es enfant de Dieu et tu peux dire Abba Père, légitimement. Si c'est oui, Alléluia. Si c'est non, ce soir, je vous en supplie, ce soir, ne partez pas de ce lieu en vous disant j'ai le temps. Demain, vous ne savez pas de quoi ça fait demain. Je voudrais vous dire, il y a un après il y a un moment où il faudra sauver sa peau et personne ne peut se sauver lui-même. Seulement dans les contes, ça arrive, n'est-ce pas, dans les contes de Grimm. Dans les contes de Grimm, il y a un moment donné un conte, le baron de Munchausen. Munchausen était tombé avec son cheval dans un sable mouvant. Et alors pour se sauver, il s'est dit, je me tire par les cheveux et je me sors tout seul. Évidemment, il n'est jamais sorti tout seul. Sauf dans le conte, évidemment. Nous avons besoin d'un puissant sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous sauve de nos péchés. Non seulement qui nous empêche de les faire, ou qui nous délivre de ce qu'on a fait de mal, mais en plus qui nous donne une vie nouvelle, qui nous donne une route nouvelle, une capacité nouvelle de marcher comme Dieu veut que nous marchions. Parce qu'on ne sait jamais. On regarde vers le haut, dit la chanson. S'il y a un après, au moins sauver sa peau. Et pour ceux qui sont sauvés, je voudrais vous dire, il y a un avenir glorieux qui nous attend. Il y a un avenir fantastique qui nous attend. Il y a déjà ici-bas les prémices, les acomptes, n'est-ce pas? Le fait que l'Esprit-Saint habite en nous, la Bible dit que c'est un acompte de Dieu. Nous avons l'acompte, nous savons que nous savons que nous savons qu'on est en route vers l'éternité et que Dieu nous aime malgré tout, mais malgré nos erreurs et nos errements. Malgré les fois où on se ramasse par terre, par plat de couture, il nous dit, allez, relève-toi mon petit, relève-toi, relève-toi, allez, relève-toi, reprends la marche. Oui, tu as 3 côtes de cassé, un genou aussi, la tête est fracassée, c'est pas grave, je vais te soigner, mais reprends la marche. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, amen. On l'a si bien chanté ce soir. Mais ce soir, c'est l'amour de Dieu qui vous attire à lui et qui vous dit, il te faut naître de nouveau. Comme il a fallu que tu naisses pour voir ce monde ici-bas. Il faut que tu naisses de l'esprit pour que tu vives la vie de l'esprit, que tu vives la vie de Dieu. Tout a commencé dans l'esprit et par la parole. Au commencement, il y avait l'Esprit Saint et la parole pour faire ce monde. Quand Jésus est venu, il a fallu que le Saint-Esprit vienne sur Marie, la couvrir et concevoir Christ, la parole de Dieu, incarné. Et quand l'Église est née à la Pentecôte, il a fallu que l'Esprit Saint vienne sur les croyants. Et après, il y a eu les actes des apôtres, ou plutôt les actes du Saint-Esprit qui ont eu lieu. Il faut la vie de l'Esprit. Bien-aimés, ce que Dieu veut, ce n'est pas faire de nous des gens religieux, mais des gens qui marchent en nouveauté de vie par la vie de l'Esprit qui est en eux, en elles. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'une transformation, non pas lié à nos grands efforts que nous faisons pour plaire à Dieu, mais aux petits efforts que nous faisons pour répondre aux injonctions de l'Esprit Saint. Il nous donne la capacité de vouloir et la capacité de faire. Et ce soir, c'est une invitation d'amour que Dieu vous adresse en disant, viens ce soir à moi, je veux te donner la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que celui ou celle qui croit, donc qui reçoit, ne périsse point, mais qu'il ou elle ait la vie éternelle. Quel glorieux avenir, Seigneur! Quel glorieux avenir! Malheureusement, pour les impies, c'est un avenir terrible. Loin de Dieu, loin de la lumière, loin de l'amour, loin de la miséricorde, un lieu de tourment et de souffrance. Ce soir, vous avez un choix à faire. Jésus dit la chose suivante. Il y a deux chemins. Un chemin étroit qui mène au ciel et à la gloire, et un chemin large. Et le danger du chemin large, c'est qu'on croit qu'on n'a pas toujours l'impression qu'on y est. Honnêtement, avant de venir à Christ, je croyais être un bon garçon. Vraiment, je vous assure. Hein, convaincu de ça. Un bon garçon. Gentil garçon, sa mère. Voilà. Bon étudiant. Toujours clean. Enfin, presque. J'étais pas aussi mauvais que les copains, donc ça allait bien. J'avais toujours trouvé pire que moi, je me disais. Et puis j'avais ma religion. J'étais fier, content, ou presque. Un peu attristé par le côté sec, mais en même temps, je me disais, j'ai une bonne morale. Sûrement, j'irai au ciel. Jusqu'au soir où un prédicateur m'a enlevé toute illusion. Et vous savez quoi? Ça a été salutaire pour moi. Profondément salutaire. toute illusion sur moi-même. Chaque homme est pécheur. Chaque femme est pécheresse. Et chacun de nous a besoin de l'immense miséricorde de Dieu qu'il accorde à ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Amen. Je voudrais ce soir terminer par une petite histoire. Et je m'arrêterai là et nous prierons ensemble. Il y avait un jour une histoire vraie. En Angleterre, il y avait un juge qui avait un ami médecin. Et ce médecin avait un peu des pratiques douteuses, au point qu'il avait été amené au tribunal. Et ce cas précis, c'est son ami le juge qui devait le juger. Et toute la ville était au courant de l'amitié entre les deux. Et toute la ville, par la presse locale, était au courant des manœuvres frauduleuses du médecin. Et tout le monde disait maintenant, que fera le juge ? Et le juge était un croyant. Et cet homme va, au moment du verdict, dire à son ami, accusé, levez-vous. Et il lui envoie la sentence la plus lourde que le code civil pouvait lui imposer. Du coup, l'ami médecin est estomaqué que son ami le juge ait osé lui infliger une telle sentence. Mais toute la ville applaudissait à cause de l'équité du juge. Quand il avait fini, il enlevait sa robe de juge, il a mis sa veste de monsieur tout le monde, il allait voir son ami à côté, et puis il sort un chéquier. Et il dit au greffier, prenez note, je paye la dette que doit mon ami à la société. Et il a payé pour son ami. Du coup, il avait associé à la fois la justice à la miséricorde. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. La justice de Dieu qui l'obligeait à nous frapper à cause de nos péchés, c'est lui qui l'a pris sur lui afin de pouvoir nous donner son amitié. Qui ne voudrait pas de l'amitié d'un tel Seigneur ? Faudrait être fou pour le refuser. Voulez-vous être sauvé ? Prions ensemble. Samuel, pourrais-tu venir ?
Gardons nos yeux fermés. Tout a été dit. Maintenant, à vous de vous décider. Alors que nos yeux sont fermés, alors peut-être que Aline commence simplement à jouer un chant. Il y a des décisions dans la vie qui sont individuelles, personnelles. Personne ne peut se substituer à nous. C'est vous et vous seul qui allez prendre la décision. Un jour j'ai dit oui à Jésus et c'est moi qui ai dit oui. Personne d'autre ne pouvait dire oui à ma place. Mais quel bonheur, quelle grâce. Combien de fois ne vous êtes-vous pas dit si seulement je pouvais recommencer ma vie. Si je pouvais la recommencer, alors je ne ferais plus telle chose. Je regrette telle autre. Cet échec me ronge aujourd'hui encore. Et on fait un bilan en se disant, mais si seulement il était possible de recommencer. Quand j'étais à l'école, je ratais parfois les pages de devoirs que je devais faire. Si Claude était un bon étudiant, moi je savais que j'allais pas au ciel grâce à ça, ça c'est sûr. Et quand la feuille était ratée, je me disais, il reste plus qu'une chose, c'est l'arracher, recommencer. Et je pouvais le faire. Alors j'arrachais et je recommençais. Ça marche dans un cahier, mais ça marche pas dans la vie. Cependant, ce soir, il est possible de recommencer une vie nouvelle, dans laquelle vous pourrez un jour dire, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui désire dire, mais je désire recommencer une vie nouvelle, mais j'ai compris que pour cela il me faut Jésus, il me faut le Sauveur, comme vous l'avez entendu ce soir. Alors que nos yeux sont fermés, je voudrais inviter ceux qui désirent prendre cette décision à lever leurs mains pour que nous puissions prier avec eux. Nos yeux sont fermés, nous nous recueillons, chacun décide pour lui. Y a-t-il quelqu'un qui est là et qui n'a jamais fait cette démarche et qui ce soir veut la faire du fond de son cœur? Il ne s'agit pas de religion, vous l'avez entendu. Dans le sens où nous ne cherchons pas des adhérents à une église. Non, il s'agit d'une relation avec un Dieu vivant qui vous aime. Nos yeux sont fermés. Si vous désirez faire cette démarche, levez votre main là où vous êtes et nous prierons. Vous levez votre main puis vous la baissez. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, madame, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, madame. Oui, madame, soyez bénie, soyez bénie. Nous sommes individuels, oui. Que Dieu vous bénisse, jeune fille. C'est certainement la décision la plus importante que je n'ai jamais prise dans ma vie. Et c'est une décision que je n'ai jamais regrettée. C'est la plus importante que vous ne prendrez jamais. Jamais vous ne pourrez prendre décision plus importante. S'il y a encore quelqu'un, je ne veux pas insister parce que finalement, recevoir le Créateur dans son cœur, quelle grâce! C'est un cadeau qui vous est fait. C'est un cadeau qui m'a été fait un jour. C'est le don gratuit de Dieu, nous dit l'Écriture. Saint Jean dit le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus le Sauveur. S'il y a encore quelqu'un, levez votre main, puis baissez-la et nous prierons. Et nous prierons. Oui, jeune homme, soyez béni. Oui, soyez béni. Pourrions-nous nous lever ensemble? Pourrais-je demander aux personnes qui ont levé leurs mains? Comme je l'ai dit, je veux prier avec vous. Nous allons prier avec vous. Chantons encore une fois. Tel que je suis, je viens à toi. Et vous qui avez levé votre main, approchez-vous. Non pas d'un homme ni d'une église, mais de Jésus ce soir. Il vous invite. Il veut souper avec vous. Tel que je suis, sans rien à moi. Si Claude, s'il te plaît. Sans verser. Christian, est-ce que les frères responsables également? Et ta voix qui m'appelle à toi. Je suis tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur. Le rejour, nous allons prier. Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, je veux te donner mon cœur ce soir. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Merci de ce que tu me permets de commencer une vie nouvelle. Avec toi, désormais, je ne marcherai plus seul sur le chemin de la vie. Mais je sais que tu marches avec moi. Je veux appeler mal ce qui est mal. Je veux m'en détourner. Me tourner vers toi. Et te suivre. Merci parce que je peux te confesser de ma bouche ce soir. comme mon Sauveur et mon Seigneur. Règne sur ma vie. Sois le maître dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Et je te remercie parce que tu me donnes la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul et vrai Dieu. Amen. Père, je te loue de ce que tu es là ce soir. Chaque personne ici présente est précieuse à tes yeux. Le prix d'une personne, Seigneur, eh bien, ne saurait être évalué par aucun d'entre nous, mais le seul qui ait pu payer, c'est toi. C'est le prix de ta vie que vaut chacune de ces personnes, que nous valons chacun d'entre nous ici présents. Et nous te bénissons parce que tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés à un grand prix, celui de ta vie. Et il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui croient en toi. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui se repentent. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui te reçoivent comme leur Sauveur et leur Seigneur. Quelle qu'ait été la vie de mes amis ici présents, tu leur permets un nouveau départ. Oui, tu peux naître de nouveau. Oui, tu peux tout recommencer. Comme le dit ce chant, balayer ta vie passée et recommencer et repartir à zéro. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Fais-leur du bien. Esprit de Dieu, remplis-les de ta présence. Que l'ennemi de leurs âmes ne vienne pas ravir cette bonne semence qui a été semée dans leur cœur ce soir. Mais qu'ils puissent avancer avec toi. À toi la gloire.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.